Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada.
Au lendemain de la présentation par Emmanuel Macron du plan France 2030 sur l'innovation et la recherche, suite de notre entretien avec Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport, pour évoquer à présent la transition écologique, cette échéance de 2035 fixée par le gouvernement pour l'avion à hydrogène, un objectif très ambitieux, Jean-Baptiste Djebbari.
Oui, c'est demain, mais c'est la raison pour laquelle nous investissons massivement, je le disais, nous quadruplons les efforts de recherche. Nous savons très bien que si on fait le rétro-planning, comme on dit, de 2035, il faut commencer à produire un avion 5-6 ans avant. Il faut avoir fait l'ensemble de la recherche technologique dans les années qui ont précédé. Et ça nous amène aujourd'hui à ces investissements absolument massifs. Safran investit de mémoire plusieurs centaines de millions d'euros sur la décarbonation au sens large. Airbus s'est résolument lancé dans la transition vers l'avion à hydrogène. Et peut-être d'ailleurs que les briques technologiques qui vont être trouvées, assemblées, ne seront pas tout à fait celles qui étaient envisagées en 2020. Mais ça, c'est le sens de l'innovation. On trouve des choses nouvelles, on accélère des idées qui ne paraissaient pas être les idées prioritaires, mais on trouve. Souvent, les grandes innovations se construisent face à l'adversité ou dans des moments compliqués. Je pense qu'on peut se dire que l'aviation connaît un moment d'adversité, avec une remise en cause un peu de ses fondamentaux, de liberté, et un doute sur le fait que l'innovation technologique peut être une solution à nos préoccupations environnementales. Moi, je pense que, d'abord, quand toute chose, l'optimisme doit être de volonté, et que je suis convaincu, au regard de ce que je vois déjà sur le terrain, que nous saurons décarboner l'aviation et que nous trouverons plein de briques technologiques intelligentes à assembler et que les Français peuvent continuer d'être des très très grands pionniers de l'aviation nouvelle.
Et en même temps, Jean-Baptiste Djebbari, le secteur est très attaqué, il est accusé de tous les maux, notamment sur les émissions de CO2, le combat de la décarbonation et de la communication aussi.
D'abord, c'est un bashing qui est sonore, mais quand on regarde un peu en détail qui voyage, on voit bien que dès lors que les restrictions de déplacement sont levées, un certain nombre de Français, des jeunes, des moins jeunes, revoyagent. Et moi, je fais un exercice intéressant, vous savez, quand je vois des activistes, je mets ça entre guillemets, du climat taper sur l'aviation, en général, je regarde leurs comptes Instagram, par exemple, et vous les voyez souvent posés à côté d'avions. Donc, il y a aussi, il ne faut pas tout à fait se voiler la face, il y a une approche assez politicienne des choses. Et c'est pour ça que nous, on essaie de tenir un raisonnement scientifique sans s'aveugler. Et effectivement, l'aviation, comme tous les autres secteurs, qui doit engager sa décarbonation, prendre sa part, et je l'ai dit encore une fois, avec lucidité, la part de l'aviation, la croissance de l'aviation, malgré la crise Covid, elle restera forte et durable. Parce que les pays émergents commencent à avoir des classes moyennes qui veulent voyager, c'est le cas de la Chine, pour prendre un cas emblématique, dont le trafic a repris et est passé au-dessus des niveaux de 2019. Donc le sujet de la décarbonation, c'est un sujet majeur. L'aviation bashing, c'est bien souvent, notamment à l'échelle du pays, une façon de trouver un angle politique pour faire valoir des idéologies, notamment de décroissance, qui, je crois, serait une très mauvaise nouvelle pour le pays si elle venait à s'appliquer. Et en plus, une remise en question de la science, de la technologie comme étant un des moyens pour l'humanité de continuer à progresser, qui, à mon avis, paraît un chemin tout à fait délétère. Je prends un exemple, l'ARN messager, ce vaccin, cette recherche et cette innovation technologique incroyable a permis à l'humanité de résister, de se doter des anticorps contre le virus. Eh ben, c'est un peu, mettre en regard en parallèle ces deux raisonnements. On aurait d'un côté de l'innovation technologique qui a des vertus tout à fait considérables, et pour l'aviation, on devrait s'arrêter là. Ne pas chercher à la transformer et se priver d'un certain nombre de libertés que moi, en plus, je considère comme étant tout à fait nécessaires pour mieux se connaître, mieux s'apprivoiser et entretenir un monde qui soit le plus pacifique possible. Parce que l'aviation, c'est aussi ça. C'est se connaître, se déplacer et participer à une forme de pacification des peuples. Moi, j'en suis persuadé. Et je ne pense pas vraiment être démenti par beaucoup de ce point de vue-là. Mais voilà, c'est un grand enjeu, et y compris un enjeu de réconciliation entre le secteur, sa communication et le grand public. Et donc donner à voir, on aura des beaux salons, notamment le salon du Bourget en 2023, pour donner à voir cette nouvelle génération d'avions, ce qu'elle peut être, ce qu'elle sera déjà, et continuer à faire rêver les enfants. Ça me paraît être un bon programme.
Alors dites-nous, comment sortons de cette situation et à qui la faute ?
Bah, c'est sûr que si on essaie de faire notre autocritique collective, politique, décideurs publics et acteurs du secteur, on peut se dire qu'en 2016, le secteur avec Corsia s'est doté du premier mécanisme de régulation environnementale du monde. Alors certes, c'est un système de compensation, c'est moins en rupture que ce qu'on fait actuellement, mais quand même. Et c'est vrai que malgré tout, le secteur a été, notamment en France, mais mais aussi dans d'autres pays, notamment quelques pays scandinaves. Greta Thunberg en a été l'égérie, en quelque sorte, a été l'objet d'un aviation bashing qui a été extrêmement fort. Et aujourd'hui, quand on se réfère tout à chacun à son empreinte carbone, bien souvent, moi, quand j'interroge les gens autour de moi, ils me parlent aviation. Ils me disent « je vais moins prendre l'avion ». Donc, il y a certainement eu un défaut de communication dans un moment où le secteur avait des commandes tout à fait considérables, vivait une croissance stable et durable, et le Covid, de ce point de vue-là, a exacerbé un peu les tendances à l'œuvre. D'abord, on a eu cette grande crise économique, et puis on a eu cette nécessité d'accélérer la décarbonation pour rendre le secteur compatible avec nos engagements environnementaux, je le disais. Donc certainement que, pour reprendre et répondre à votre question, il y a encore des efforts de communication à faire. Et la communication, c'est parler au grand public et leur donner à voir que le secteur bouge. On a des très bons salons pour ça. Moi, je vois le succès populaire de ces salons qui ne se dément pas édition après édition. Je vois la volonté des jeunes d'embrasser ces nouveaux secteurs et de le faire avec énormément d'envie, d'audace, de questionner les dogmes du passé. Parler d'Elixir Aircraft qui réinvente en quelque sorte le design même de l'aile. C'est intéressant quand même de se poser ces questions-là. Et ces innovations sont devant nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner, il faut crédibiliser la volonté politique de décarboner l'aviation par des démonstrations, des illustrations concrètes. Et tout ce qui est donné à voir au public en termes d'avions bas carbone, hybrides électriques, électriques, tout ça est important pour gagner le combat de la communication, en plus du combat de la décarbonation, bien sûr. Je prends aussi ma part sur le sujet. Je pense qu'il faut trouver des modes de communication plus efficaces. Encore une fois, démontrer plutôt que parler. D'abord, ce sont des sujets complexes, techniques. Quand on parle de carburant alternatif, on parle de chimie, pas forcément accessible en deux minutes. Et donc, il faut le donner à voir. D'autant plus qu'en fait, ces innovations, elles sont déjà là. Moi, j'ai eu l'occasion en 4 semaines ou en un mois de tester un avion électrique à Aix-en-Provence, un avion à batterie électrique. Alors certes, qui aujourd'hui a une autonomie d'une heure, mais un avion à batterie électrique, de voir un avion hybride voler, de tester un avion avec cette nouvelle aile construite sans longeron ni nervure, de lancer un appel à projet sur les biocarburants, d'aller visiter un site à Venette où on produit des carburants de synthèse en vrai, pour de vrai aujourd'hui, avec de la paille et du bois, ce qu'on appelle la biomasse. Donc tout ça existe, et cela peut être en plus des champs de conquête absolument extraordinaires pour la France. Mais il faut le crédibiliser, le donner à voir, dire, répéter inlassablement que ça existe et faire progresser cette nouvelle industrie de l'aviation civile.
Jean-Baptiste Djebari, à présent, un mot sur cette aviation générale, cette aviation de loisirs, des aéroclubs, des écoles de pilotage. Est-ce qu'elle a toujours sa place en France? Est-ce qu'elle a toujours un avenir?
D'abord, on est toujours la deuxième nation du monde. On a plus de 5600 aéronefs qui sont présents sur le territoire. On a une tradition qui, chaque année, est mise en exergue par le musée Jean-Baptiste Saliste, avec ce meeting de la Ferté-Alais qui a encore eu lieu il y a quelques semaines. Donc c'est une tradition évidemment à faire vivre et c'est une transformation qu'il est nécessaire d'accompagner. On parlait d'Elixir Aircraft, on parlait de ces quelques acteurs français qui aujourd'hui ont choisi de proposer pour l'aviation légère de nouveaux modèles qui évidemment tiennent compte et mettent en œuvre ce nouveau paradigme de la décarbonation de l'aviation. Donc l'aviation légère a un avenir si elle se transforme également, si elle est encore plus acceptable, davantage acceptable par les environnements, je parle notamment en termes de bruit et de pollution aux abords des aérodromes, on voit bien que c'est un enjeu considérable. Et donc ma réponse est oui, mais la transformation là aussi pour l'aviation légère passe par la décarbonation et une meilleure insertion environnementale de ces pratiques aériennes qui là aussi permettent à des jeunes, du BIA et d'autres dispositifs de découvrir un secteur incroyable.
Avant de prendre vos fonctions ministérielles, vous avez été député, vous avez également travaillé à la DGAC, au sein d'une compagnie aérienne, vous êtes pilote. Alors, est-ce que vous avez toujours le temps de voler?
Alors, j'ai réussi, je regardais mon carnet de vol il y a quelques temps, j'ai réussi à faire une dizaine d'heures par an, depuis que je suis entré en politique, ce qui n'est pas beaucoup. Je crois que j'ai fait une quinzaine d'heures cette année. J'ai la chance d'être invité par quelques passionnés pour me faire découvrir leur avion. C'est Gabriel, le pilote du DC-3 d'Orly, m'a invité récemment et c'était une expérience tout à fait incroyable. J'ai gardé mes licences, notamment mon IR, SE et ME pour pouvoir continuer de voler. Et j'ai la chance de faire parfois un petit peu de baron ici et là et un peu d'avion à quelques copains qui ont quelques belles machines un peu partout dans le territoire. Un peu de Pilatus, j'ai encore une calife sur Pilatus PC-12 qui, je crois, se périme en octobre prochain. Donc je vais essayer de la garder, mais crois que c'est important. D'abord, c'est important de continuer de pratiquer pour être à peu près compétent. Et puis, moi, ce que j'aime aussi dans l'aviation, c'est ces moments de concentration, notamment dans les phases un peu critiques, décollage, atterrissage. Et puis, il y a toujours un peu de... Enfin, c'est vraiment une école de l'humilité, se confronter à la météo. Il n'y a jamais un vol qui est pareil. Enfin, j'écoutais, vous aviez interviewé Dupontel il y a quelques temps, je crois, qui en parlait très bien, de cette expérience physique de l'aviation. Pas métaphysique, mais physique. Et moi, j'aime toujours ça. Ça m'oxygène et je crois que c'est une activité, c'est une conquête de l'homme, l'aviation. Technologique et un peu philosophique. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vis. J'espère le vivre encore longtemps.
L'aviation, le pilotage, c'est pour vous une excellente école de vie ?
Excellente école de vie, excellente école, de, je le disais, hein, de l'humilité. Moi, à chaque fois que j'ai été à l'aise dans un avion, j'ai été rappelé par la technique, par la météo, par... les mauvaises intentions de son équipage, par exemple, ou en tout cas les dysfonctionnements. Et oui, c'est un secteur dans lequel vous devez toujours être alerte, toujours être un peu à la pointe de votre propre compétence, toujours s'entraîner. Les gens ne le savent pas beaucoup, mais un pilote, c'est tous les 6 mois simulateur, tous les ans visite médicale. Enfin, vous êtes un peu... Il y a peu de métiers où vous êtes remis en cause dans vos compétences aussi souvent. Et puis par ailleurs, c'est encore aussi la dimension du voyage. Moi, j'ai eu la chance de faire ça comme métier pendant quelques années et de découvrir des villes européennes, des villes du monde, de s'arrêter, d'aussi un peu mieux comprendre le monde par cette capacité à voyager par son métier. Enfin, je veux dire, c'est un privilège tout à fait considérable. Et je pense que ça aide d'abord à d'autant plus aimer la France et à mieux comprendre le monde et la place que peut prendre la France dans le monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de rester en contact avec cette autre réalité qui, à mon avis, est très complémentaire avec celle qu'on peut vivre par ailleurs.
Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport, invité du podcast de l'aviation.